Mais alors, qui se cache derrière l'OMC? Qui se cache justement derrière ce mouvement de fond de libéralisation?
Mais je pense qu'il y a d'abord un air du temps. Ce n'est pas par hasard que l'OMC a été créée en 1994 et a commencé à exister à partir de 95, c'est-à-dire quelques années après la chute du mur de Berlin et la victoire d'une idéologie sur une autre. Il y a un air du temps qui consiste à penser que quand c'est privé, c'est meilleur, c'est moins cher, c'est plus efficace, qui n'est pas vérifié. C'est une première chose. Il y a une deuxième chose, il faut quand même rappeler que les accords de Marrakech et aujourd'hui le fonctionnement de l'OMC, ça n'est possible que parce qu'il y a des gouvernements qui y participent avec le soutien d'une majorité parlementaire. Moi, je suis obligé de rappeler, ramener les responsabilités réelles là où elles se trouvent, que, par exemple, pour ce qui concerne les pays européens et la France notamment, ce sont des matières qui sont aujourd'hui, au niveau de la négociation, traitées par la Commission européenne, en l'occurrence le commissaire européen Pascal Lamy, qui est le négociateur unique au nom des États de l'Union européenne. Mais M. Lamy fait ce qu'il fait sur la base d'un mandat qui lui a été donné en 1999, c'est d'ailleurs toujours le même, qui est un véritable chèque en blanc à libéraliser, et ce mandat lui a été donné par les 15 gouvernements de l'Union européenne. Et je rappelle quand même qu'en 1999, on avait Tony Blair, Monsieur Schröder, Monsieur Jospin et Monsieur D'Alema, tous de la même famille politique, qui dominaient, d'une certaine gauche en tout cas, qui dominaient l'Europe, et il y avait des sociaux-démocrates dans beaucoup d'autres gouvernements de coalition. Et ce sont ces gouvernements-là qui ont donné à la Commission européenne, à Pascal Lamy, un mandat. Mais s'il avait pu réaliser ce mandat pleinement, on aurait pu ajouter à la soixantaine d'accords que gère aujourd'hui l'OMC une vingtaine d'accords supplémentaires. C'est un mandat extraordinairement néolibéral qui tend à aller vers une autre société, un autre monde où le marché est la règle. Alors, bien sûr, derrière les gouvernements, il y a des pressions qui s'exercent, derrière ou à côté, c'est comme on veut, et c'est clair que d'un côté, on a le patronat qui s'est d'ailleurs beaucoup plus rapidement adapté aux nouvelles réalités internationales, c'est-à-dire d'abord pour nous la construction européenne et puis l'OMC, beaucoup plus rapidement que les organisations syndicales, par exemple, qui au niveau européen sont encore d'une impuissance remarquable. Donc il y a là un équilibre. On sait bien que toute société, c'est le résultat d'un rapport de force. On a réussi parfois à équilibrer les influences des uns par les influences des autres. Ce faisant, ça montre que Montesquieu n'a pas pris une seule ride, puisque Montesquieu écrivait dans l'Esprit des lois au XVIIIe siècle qu'à tout pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Mais le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que la vague néolibérale est aussi déferlante, c'est qu'il n'y a pas de véritable contre-pouvoir au pouvoir des grands lobbies d'affaires, des groupes de pression du monde patronal qui se sont organisés en conséquence, qui ont leurs petites et grandes entrées auprès de chaque gouvernement, auprès de la Commission européenne et auprès de l'OMC, et qu'en face de cela, à part la constellation des mouvements associatifs, des ONG et ici et là de quelques organisations syndicales, mais qui jusqu'à présent font peut-être de plus en plus parler d'elles, mais ne font pas encore le contrepoids nécessaire pour limiter ce pouvoir exorbitant du monde des affaires sur les gouvernements.
La santé, l'eau, l'éducation, et est-ce qu'on peut en sortir ?
En théorie, oui. En pratique,
c'est quasiment impossible.
À ceux qui veulent dominer le monde répond résistance.
C'est quasiment impossible. L'effet cliqué.
C'est un choix de société. C'est un choix fondamental de savoir si on veut que l'accès aux soins de santé soit rendu possible pour le plus grand nombre ou rendu possible à ceux qui peuvent le payer. C'est un choix fondamental de société, et à partir du moment où on a fait ce choix, et si on a fait le choix pour lequel d'ailleurs des générations d'Européens se sont battus, c'est-à-dire l'accès pour tous aux soins de santé, bien il faut organiser l'allocation des ressources en conséquence. Vous savez, les priorités budgétaires, ce sont des décisions politiques, mais on nous les présente tous nos gouvernants ont cette fâcheuse habitude de nous les présenter comme des fatalités.
Voilà. Il y a plus d'argent dans la caisse.
Oui, oui, mais bon, il y a plus d'argent dans la caisse parce qu'on l'a dépensé à autre chose, ou bien parce que on s'est privé de recettes possibles. Quand on supprime des impôts sur les salaires les plus élevés, et on sait quand même que les gouvernements ont aussi ouvert la porte à des salaires mirobolants pour des chefs d'entreprise, ça a des conséquences. C'est clair que pour mettre en œuvre une politique, quelle qu'elle soit, il faut des moyens. Baisser les impôts, c'est entrer dans une logique d'un état minimum qui se traduit inéluctablement par le fait que l'éducation, la santé, la culture, ben, ce sera pour ceux qui peuvent le payer, puisque c'est une forme de privatisation de ces services. Alors, si on accepte cette évolution, bien, on va assister à ce qu'on constate déjà parfois dans certains établissements privés, c'est que quelqu'un qui arrive aux urgences, on demande d'abord, on vérifie d'abord s'il a les moyens de payer les soins qu'il réclame avant de le soigner. C'est intéressant parce que en termes de priorité, c'est l'argent avant l'humain.
La carte bleue avant le pouls.
Voilà, tout à fait. Un médicament est une marchandise. Un médicament n'est pas un moyen de se guérir, de se soigner. Et donc il y a là un fossé immense entre deux visions du monde et deux visions des rapports entre les êtres humains.